Tribu, Jérôme Timmerman.
Bonjour, bienvenue dans Tribu, au cœur de cette émission aujourd'hui, les rites funéraires avec un champ des possibles qui n'a, semble-t-il, jamais été aussi large, hein, qu'il s'agisse de cérémonies ou de préparatifs. Est-ce que ça, que l'on soit pratiquant ou laïque? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sandra Widmer-Joly. Bonjour.
Mais bonjour, Jérôme Timmerman.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes Sandra Widmer-Joly, célébrante ou officiante, indépendante en funérailles. Vous êtes aussi accompagnante de personnes en fin de vie, biographe, journaliste et auteur du livre « De la lumière au bout de son chemin, donner un sens à sa finitude » aux éditions Iska. Bah, déjà un mot sur votre livre, on peut le décrire comme un guide pratique, un guide mortel, vous passez en revue toutes ces questions d'ordre pratique qui peuvent se présenter avant et après la mort.
Avant, oui, tout à fait. Alors avant la mort, en se préparant en fait, en préparant sa finitude, si la mort apparaît, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me prépare? Et puis après, si j'ai besoin d'être accompagnée, par qui, comment, de quelle manière? Et voilà.
Et je l'ai dit, vous êtes aussi officiante indépendante en funérailles, vous êtes d'ailleurs même formatrice. Qu'est-ce que vous observez dans cette activité d'officiante en funérailles? Est-ce que les rites funéraires traditionnels, alors essentiellement religieux, hein, comme on les connaît traditionnellement, est-ce qu'ils sont bouleversés, ces rites?
Je dirais pas bouleversé. Je pense que les familles qui sont touchées par un deuil, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le défunt doit être au milieu de la cérémonie. C'est vraiment important. L'être aimé, on doit retrouver un sens au chemin partagé, au chemin vécu avec la personne qui est décédée. Et c'est vrai que, oui, les cérémonies indépendantes commence à vraiment devenir importante, on va dire, on peut le dire comme ça.
Oui. C'est parce qu'elle répond à un besoin, oui. Donc le défunt n'est pas assez au centre de cérémonies traditionnelles, c'est un reproche. Alors, presque à...
Non, c'est pas un reproche, parce que je suis pas du tout anticléricale, mais c'est vrai que les personnes qui viennent vers nous disent, on a besoin de mettre notre être aimé au centre de la cérémonie. Donc c'est vraiment des cérémonies personnalisées qui collent à ce qui a été partagé, au chemin, au vécu, à ce qui est... On fait un pont entre ce qui est, ce qui a été et ce qui sera aussi, hein, parce qu'une cérémonie, il y a quatre parties, comme dans les cérémonies religieuses. Simplement, nous n'avons pas la liturgie, et donc nous avons autre chose, c'est-à-dire que ce que nous partagent les vivants et comment eux, quelles sont leurs croyances aussi.
Voilà. Et donc la demande pour des offices laïques, elle est en augmentation depuis quelques années.
Alors, on voit qu'elle est en augmentation. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on nous regardait un peu... Enfin, j'ai des collègues, des camarades qui sont là depuis 14-15 ans. Au début, on nous regardait un peu d'un air un peu étrange. Et d'ailleurs, dans mes premières cérémonies, un monsieur est venu vers moi en me disant « De quelle secte faites-vous partie ?» Oui, parce que c'était un peu étrange. C'est un bouleversement à ce moment-là. Chose que je peux tout à fait entendre. Voilà.
Pourquoi, selon vous, il y a de plus en plus d'offices, de cérémonies, de funérailles qui sortent de ce qu'on a l'habitude d'observer? Vous aviez dit il y a besoin de mettre le défunt au centre, mais est-ce qu'il y a aussi besoin de nouveaux modèles, de chercher peut-être plus de fantaisie?
Alors la fantaisie, il faut juste faire attention quand on met le mot original ou fantaisie sur une cérémonie. Si on me demande de taper dans un tambour et que la personne est totalement athée, ça n'a aucun sens. Donc, je le ferai pas. Je vais pas faire ce genre de choses. C'est pas moi qui me mets en avant. Je suis là pour mettre en avant le défunt et sa famille. Et la communauté qui vient dire au revoir aussi. La fantaisie, je sais pas. Moi, je fais beaucoup de... Quand je dis mes cérémonies, c'est beaucoup à travers les mots. Et puis des gestes symboliques tout simples, voilà.
Mais il y a peut-être de nouveau se détourner de ce qui est traditionnel, chercher. Oui. Je parlais de nouveaux modèles. On est un peu dans ce besoin de renouvellement des traditions.
Oui, on a besoin de se remettre soi-même au centre et de se dire, tiens, voilà, Je sais pas si on peut parler d'individualisation, parce que quand on fait, quand on prépare son enterrement ou quand on prépare l'enterrement de quelqu'un qu'on aime, peut-être qu'il y a de cela, mais c'est, on se met pas en scène, on met pas en scène le défunt. C'est vraiment, c'est comme c'est ce que je dis, c'est vraiment un chemin à partager avec sa communauté.
Si j'arrive sur une question pratique, Sandra Vidmerjoli, qu'est-ce qu'on a comme possibilité dans le cadre de l'accompagnement enfin des cérémonies pour dire adieu? Est-ce qu'au fond tout est possible ou est-ce qu'il vous avez il y a des limites quand même à fixer?
Moi, je pense que il faudrait quand même avoir des limites à se fixer, mais tout est possible. En fait, on est plusieurs célébrants et on est comme je forme aussi les célébrants funéraires, j'en ai formé pas mal. Chacun a ses spécificités. Alors, il va y avoir la personne qui n'aura pas peur d'aller au-delà de ce qui est prévu et qui va faire des cérémonies totalement Claude François en paillettes, et puis d'autres qui vont jouer avec les mots, qui vont vraiment écouter la famille. Ça, c'est un peu plus moi, qui suis un peu plus dans la discrétion, un peu plus dans l'humilité. Mais je dis pas que les autres sont pas humbles, c'est pas ça. Mais je vais en fait faire plutôt ma ritualisation avec les mots.
Il n'y a pas d'opposition entre office laïque et religieux. On pourrait tout à fait combiner la tradition, la modernité. Est-ce qu'il y a cette possibilité, si on cherche un peu les deux facettes, pour, j'imagine, contenter une grande partie de la famille qui aurait des souhaits différents?
Alors en fait, il m'est arrivé, c'est une jolie question, parce que c'est vrai qu'on peut nous regarder, les hommes et les femmes d'église nous regardent un peu, certains nous regardent un peu avec... voilà, ils sont un petit peu sur la défensive. Et puis d'autres, avec lesquels je travaille, il m'est arrivé de travailler et de faire toute la partie hommage. Et les familles s'y retrouvent. Donc j'arrive pas comme officiante laïque, j'arrive comme recueilleuse d'histoire de vie. Et en fait, toute la partie liturgique est faite par un pasteur, ou un prêtre, ou un diacre. Et puis, les familles sont contents parce qu'ils se disent, ben voilà, on a eu les deux. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, mais je viens pas comme officiante laïque. Je peux pas dire que je. Sinon, ça fait un peu désordre en disant mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? C'est laïque, c'est religieux. Enfin, c'est un peu bizarre.
Donc... Mais c'est facile à combiner. Oui. Il y a pas de. C'est pas une antithèse de d'être présente lors d'un office religieux.
Non, si on fait la partie hommage, il y a aucun souci.
Qu'est-ce qu'on peut répondre, Sandra Vidmerjoli, par exemple, à celles et ceux qui estiment que, qui pourraient dire que les traditions, ça se perd? Parce que vous parliez d'une réaction d'une personne qui disait que vous êtes dans quelle secte en faisant des offices indépendants. Oui, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce qu'on est quand même en train de recréer une nouvelle forme de tradition, alors si elle se perd, ou peut-être qu'on est en train de revenir à quelque chose qui préexistait? Vous en pensez quoi?
Moi, je pense qu'on revient à quelque chose qui existait, mais qui a été perdu, et en fait, on est en train de le réinventer. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses, peut-être d'autres personnes le voient autrement, mais je pense qu'on est en train de réinventer le revoir et le rituel autrement, c'est-à-dire vraiment de manière plus personnalisée, en collant vraiment à ce qui est dit, à ce qui est raconté, narré, partagé.
Est-ce que vous auriez un exemple à donner d'une nouvelle forme, d'une originalité? Parce qu'on est en train de un peu tourner autour du pot, mais est-ce qu'il y aurait un cas pratique qu'on pourrait expliquer? Quelque chose qui vous a marqué dans vos activités d'officiante?
Alors, beaucoup de situations m'ont marqué. Mais par exemple, la dernière, celle que je vais faire demain, la famille est orthodoxe. Et il y a la maman et la sœur de ce monsieur qui est décédé. Et moi, j'ai tout de suite posé la question, mais pourquoi est-ce que vous choisissez de faire laïque? Et la sœur m'a dit, mais moi, je suis agnostique, ma maman est orthodoxe, mais nous voulons donner la place à ce frère, à ce fils. Et on va parler que de lui, il nous faut parler que de lui. Comme quelque chose qu'on rendrait comme un honneur, ou quelque chose qu'on rendrait à cette personne avec qui on a cheminé, on a eu des problèmes à cheminer avec parce qu'il y a eu une maladie psychique. Mais voilà, on va lui rendre honneur, on va le célébrer. Voilà.
J'en reviens à l'originalité, on parlait un peu de fantaisie avant. Est-ce que l'originalité dans un enterrement, vouloir y ajouter des touches de rire, de musicalité, de poèmes, peut-être d'autres formes d'expression artistique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que c'est admis ou est-ce que c'est quelque chose d'inadéquat? On se situe où?
Non, c'est admis, mais pourvu que ça fasse sens avec l'histoire du défunt et de la famille. L'été dernier, j'étais dans un jardin d'une maison, là où la personne avait vécu. On avait préparé donc sa cérémonie, et il y a toute la place qu'on a donnée aux vivants, parce que c'est aussi important. Et il y a une dame qui est venue taper dans le tambour. Il y a des bougies qui ont été allumées, il y a eu des chants, enfin il y a eu des choses qui ont été possibles. C'est possible. Tout est possible pourvu que ça colle aussi à ce qu'a vécu le défunt et sa famille.
On se remémore aussi des périodes de confinement, du coronavirus. Est-ce que là, il y a des nouvelles pratiques? Parce qu'on a parlé du monde du travail, enfin plein de secteurs qui ont été bouleversés. Est-ce que les offices religieux, alors forcément, mais également en termes de funérailles, ont été bouleversés par cette situation?
Oui, alors je crois que tous les offices, toutes les cérémonies, les célébrations, quelles qu'elles soient, ont été bouleversées parce que les au revoir ont été pratiquement impossible. Et là, on s'est dit, mais comment est-ce que je dis au revoir à un père, à un frère, à une sœur, à une maman? Moi, j'ai des familles qui m'ont appelé au secours et on a fait ça d'une nouvelle manière, hein, de manière numérique, on va dire, grâce à Skype, enfin des choses comme ça, par visioconférence, parce qu'ils avaient besoin de partager. Donc, on a fait justement des nouvelles formes, si on veut, de cérémonies, qui étaient plus un partage et alors des gestes symboliques, des choses qu'on peut faire ensemble derrière son écran.
Et ces nouvelles formes, est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui ou c'était vraiment pour parer à la situation qu'on vivait à ce moment-là?
Alors moi, j'en ai plus refait.
Donc,
je crois
quand même besoin de revenir à une forme de tradition.
Il y a eu vraiment besoin de ça. Il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose-là manquait. Donc en fait, ça a été un petit peu réinventé de nouveau. Hein. On a inventé une nouvelle forme. Et ou alors les cérémonies étaient faites à 5, 10, 15, 20 personnes. Enfin, c'était terrible. Mais aussi avec une possibilité de vidéo. Maintenant, c'est terminé tout ça.
Sandra Vidmerjoli, vous êtes l'invitée de Tribu jusqu'à 11h30. Nous parlons rites funéraires qu'on peut d'ailleurs anticiper avec des directives. Et ben, on en parlera juste après San Severino. On va l'écouter, San Severino, qui s'imagine, il s'imagine déjà à mon enterrement. C'est le titre de sa chanson.
Fatigué et transi, la gorge nouée par le chagrin. Vous avancez en cortège, un silencieux cortège, mais un verre à la main. Parmi les compères, il fallait désigner quelques volontaires. Quatre costauds pour me porter. Mal, ne vont pas y couper, c'est nerveux, c'est normal. Vous boirez du vin à ma santé quand ce sera terminé. J'ai évité la morgue et j'en ai fini en crevant dans mon lit. Je serais sûrement payé une fanfare. passion, l'ultime cuisson.
Ça brûle, hey.
Venez faire du bruit, venez tourner de l'œil, venez taper le deuil sur le bois de mon cercueil. Hey. Des hystériques et des sorts, si vous doux. Mon dernier barbecue, ça va chauffer sauvagement à mon enterrement. Venez passer du bon temps à mon enterrement. Quelle réussite cette réception. Il y avait de la tristesse et de l'espoir. Ne me laissez pas tout seul dans le noir.
C'était Sanseverino avec la chanson À mon enterrement à 11h20 sur la première. Sandra Widmer-Joly, officiante indépendante en funérailles et auteure. Venez passer du bon temps à mon enterrement, nous dit Sanseverino. D'ailleurs, à l'instar de cette chanson, on s'imagine parfois à quoi vont ressembler nos funérailles, son propre enterrement, comment est-ce que ça va se dérouler. On aimerait peut-être des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ressemblent à ce qui est décrit dans ce titre, des rires si possible de la musique, venez passer du bon temps. Tout ça, on pourrait le demander de son vivant, l'organiser de manière anticipée.
Bien sûr, oui. Bien sûr, oui, oui. Mais alors cette chanson m'a fait penser, si je peux revenir là-dessus, donc vraiment l'orchestre. Ça m'a fait penser à une cérémonie pour un monsieur qui jouait du trombone et qui jouait dans deux orchestres, donc dans deux fanfares. Les deux fanfares étaient présentes, ça faisait environ 40 personnes, c'était incroyable dans cette chapelle. Et il y a eu la musique du livre de la jungle, Qu'est-ce qu'on fait pour être heureux, enfin voilà, mais c'était extraordinaire. Ou alors on demande, oh écoutez, il faut pas trop qu'on pleure à mon enterrement, j'aimerais vraiment qu'on rigole, donc, mais il faut tout accompagner, donc tout est possible, mais on doit tout accompagner, même les gestes qui sont de comment on dit, de pumper, je sais pas comment, le cercueil, on peut dessiner, on peut mettre des post-it.
De pimper,
ouais,
de décorer,
de pimper,
on va dire.
Voilà, exactement, de décorer traduire, ouais. De venir, de peindre, j'ai des familles qui ont adoré faire ça et puis qui invitaient les gens à venir aussi faire ce geste-là. Il faut toujours accompagner parce qu'il y a des gens qui se disent mais si on n'accompagne pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc faut toujours dire voilà pourquoi, quel sens ça a, pourquoi on fait des musiques sympas, pourquoi est-ce qu'on fait tout un enterrement en rigolant, je veux dire, parce que la personne était comme ça, elle avait un gag par minute, donc si on fait pas une cérémonie avec des anecdotes souriantes, mais alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'est pas du tout dans le lien, dans les liens, en fait.
On s'imagine souvent un cadre rigide pour entourer cette période compliquée, difficile. Et là, à écouter vos descriptions, quand on en va jusqu'à faire des dessins sur un cercueil, à le décorer de cette manière-là, on sort vraiment, alors, complètement du cadre traditionnel. Et ça se fait, j'en reviens aux limites, il n'y en a pas tant que ça, finalement.
Non, il n'y en a pas tant que ça. Bon, il faut que ça soit correct, bien évidemment, mais... que ça soit décent, mais j'ai eu deux petits amoureux qui sont décédés cet été en voiture. Et vraiment, l'idée de décorer les cercueils, les deux, parce que c'était une cérémonie pour les deux ensemble, eh bien, ils ont tous mis des mots d'amour. C'était magnifique, c'était vraiment très très beau. Et ils avaient besoin de faire ça.
J'en viens aux directives anticipées qu'on peut laisser... notamment pour l'organisation des rites, des funérailles. C'est un acte fort, donc c'est possible, mais c'est un acte fort de planifier en quelque sorte le déroulement de cette cérémonie. C'est planifier sa propre mort en quelque sorte, son propre enterrement, donc c'est particulièrement difficile. Ou est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes qui sont prêtes à franchir ce cap et anticiper au maximum cette étape difficile que sera l'organisation des funérailles?
Alors... il y a les directives anticipées, c'est pour soi-même, est-ce qu'on donne ses dons d'organes, tout ça. Et puis il y a la prévoyance et l'organisation de sa cérémonie. Mais moi, les personnes qui me demandent cela, c'est des personnes incroyables. Je suis chaque fois sonnée par les personnes que je rencontre, qui sont très vivantes, qui ont besoin de partager certaines choses ou de remercier certaines personnes de ce chemin parcouru. Oui, c'est un acte fort. Et chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un de ce type-là en disant « mais il y a certaines qui sont dans mon cœur parce que c'est impossible de faire autrement », elles sont vraiment magnifiques. Chaque fois, je ressors et je me dis, oui, c'est vrai, c'est un acte fort, en disant, voilà, alors là, je veux ça comme ça, je veux ça comme ça, j'aimerais ça comme ça, je veux ça comme ça. La personne, elle s'est vraiment posé la question. Elle a déjà fait son chemin en se disant, ok, un jour, ça va terminer. Et comment? Et qu'est-ce que je laisse? Et comment je le laisse?
On peut interpréter ces préparatifs comme un soulagement pour celles et ceux qui restent, qui n'ont pas de choix difficile à faire, mais il faut leur laisser une certaine place aussi dans l'organisation. Ouais. Il faut qu'elles s'impliquent également émotionnellement.
Mais bien sûr,
oui. Il faut garder cette place.
Mais bien sûr, il faut garder. Moi, je dis, c'est pas la personne défunte qui dit au revoir. Oui, il y a un peu de ça quand on prépare sa cérémonie. Mais il y a surtout la place aux vivants. C'est eux qui doivent dire au revoir. C'est eux qui vivent le deuil. C'est eux qui sont là-dedans et qui sont dans le moment de la séparation et de l'après du deuil. Donc vraiment toujours leur laisser une place. Il y a, je crois, personne qui m'a contacté de son vivant en disant non, je vais pas laisser la place, c'est juste moi qui parle et puis c'est tout. Non, c'est pas tous ont dit oui, mais bien sûr, on va laisser, voilà, il y a aucun souci, mais bien sûr, on leur laisse la place. C'est eux qui vivent l'après, le pendant et l'après.
On a beaucoup parlé jusqu'ici, Sandra Wittmer-Joly, des funérailles, de la cérémonie. On peut évoquer d'autres étapes, notamment celle de la rédaction de la vie mortuaire. Est-ce que vous voyez de nouvelles formes, de nouveaux rites autour de cette communication, cet avis de décès? Est-ce que ça se fait via de nouveaux canaux ou est-ce qu'on garde quand même cette tradition de le faire via une publication papier dans un journal?
Alors maintenant, de plus en plus, moi qui suis sur Facebook et pas tellement sur d'autres nouvelles plateformes, je vois souvent, et moi aussi, m'est arrivé de le faire, en disant, ben voilà, on a perdu papa, maman, mon frère, ma sœur. Il y a ce besoin de partager instantanément, mais je dis bien instantanément, parce que souvent c'est 1 heure, 2 heures après le décès, en disant, ben voilà, je partage au sens le plus large de ma communauté, je sais pas, ça peut être n'importe quelle plateforme, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin qu'on me dise des gentilles paroles, j'ai besoin qu'on soit avec moi. Et après, il y a l'autre communauté qui est plus présente le jour J. Peut-être qu'il y aura des gens aussi qui viennent de plateformes, mais il y a sa famille et tout. Mais on se réunit autour du défunt et de nouvelles manières. La vie mortuaire, il fait encore partie, encore intrinsèque, je dirais, d'annoncer quand même le décès. Mais de plus en plus, les gens le font après la cérémonie. Ils vivent ça plutôt de manière intime et puis ils vont mettre une annonce après ou alors avant si on a envie d'inviter le plus grand nombre.
Donc il y a une tendance à se recentrer vers le noyau et peut-être moins souhaiter les enterrements en grande pompe, totalement l'inverse de ce qu'on vient de vivre avec le décès de la reine Elisabeth II, par exemple, là où c'était des funérailles nationales. Alors, bien évidemment, toute proportion gardée, mais on souhaite se recentrer plutôt sur le noyau familial dans ces situations.
Oui, on a besoin d'avoir les gens qu'on a envie d'avoir, voilà. Et puis pas tellement des gens avec qui on a eu des difficultés. Ça, je vois, quand il y a des histoires de vie qui ont été douloureuses, alors là, on va se concentrer sur son noyau en disant, alors j'aimerais pas que telle personne ou telle personne vienne, donc on va se concentrer sur nous, comment est-ce qu'on vit la chose. Et après, on ouvrira avec des cartes de condoléances ou autre chose, ou le réseau.
Et puis, en ce qui concerne l'évolution des rites globaux funéraires, on voit aussi, pour certaines, un acte écologique. C'est-à-dire, on choisit peut-être un cercueil ou un mode de sépulture particulier en fonction de ses convictions. Vous l'avez constaté?
Alors ça, il y a pas mal de demandes. C'est les pompes funèbres qui s'occupent de ça. Mais effectivement, il y a une demande d'écologiquement partir. Mais alors c'est difficile parce qu'on se rend compte que l'inhumation, on n'est pas totalement des corps démunis de tout traitement ou de toute chose qui peut arriver avant un décès, des traitements médicaux. Mais j'aimerais mourir de manière la plus écolo possible, la plus verte. Il y a alors se faire incinérer aussi, c'est pas non plus très très écolo, très vert, mais il y a quand même 85 à 90% des gens qui se font incinérer. Et puis, le grand truc qui arrive, c'est l'humusation. Donc, qu'on soit mis en terre, le corps soit mis en terre. Et en fait, on récupère quelques mois, voire une année après, on se transforme en terre et ça sert de compost pour alimenter une plante, un arbre ou quelque chose comme ça.
Voilà. Une nouvelle forme peut-être qui va à l'avenir devenir recherchée. En tout cas, merci beaucoup Sandra Widmer-Joly. On arrive déjà au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes célébrante, indépendante en funérailles, accompagnante de personnes en fin de vie, biographe, journaliste. Très belle journée à vous.
Mais merci infiniment Jérôme, vraiment pour cette invitation.
Et merci à Mathias Brunimann en régie, Héloïse Nussbaum, notre attachée de production, Bastien Arnold pour la programmation musicale. Excellente journée à l'écoute de La Première. Rendez-vous dès maintenant avec les Décodeurs.
Tribu, Jérôme Timmermann.